It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous avez peut-être entendu parler de cette jeune femme amputée d'une jambe après un accident à Paris le 27 octobre 2018. Pauline Desroulaides attendait sa compagne, assise sur son scooter, garée devant un fleuriste, quand une voiture a fauché tout le monde. Au volant, un retraité âgé de 92 ans, deux autres personnes ont été gravement blessées. Aujourd'hui, elle se bat pour la mise en place d'un contrôle d'aptitude à la conduite, elle se lance dans le tennis en fauteuil avec Paris 2024 en ligne de mire, et elle essaie d'apaiser sa colère. Pour Code Source, Pauline Desroulaides raconte son histoire à Claudia Prolongeau.
Depuis le mois de mars, Pauline a emménagé dans une résidence à Boulogne. Il y a un ascenseur et les couloirs sont assez larges pour laisser passer un fauteuil, ce qui n'était pas le cas dans son immeuble précédent. Elle me reçoit et inlassablement me raconte avec quelle détermination elle mène un combat qui n'aurait jamais dû être le sien.
Au début, c'est mon père qui a lancé une pétition quand j'étais encore à l'hôpital, pour tirer la sonnette d'alarme qui avait déjà été tirée à de nombreuses reprises, soulevant ce problème des seniors au volant. Quand j'ai été plus en état d'en parler, j'ai pris, on va dire, la relève de ce combat et j'ai commencé à l'incarner. Pour moi, c'est trop tard, mais en tout cas, j'aimerais que mon accident y serve.
Son accident, Pauline s'en souvient très bien. C'était le 27 octobre 2018.
Je me souviens que c'était une belle journée, c'était un samedi. J'attendais ma compagne sur mon scooter, assise sur mon scooter qui était à l'arrêt. Et le soir, on était invités chez son frère et c'était les présentations officielles. J'avais à la fois hâte et en même temps un peu le stress quoi, des présentations officielles. Mais en tout cas, on avait une belle soirée en perspective et justement, en fait, on allait chercher des fleurs pour cette soirée-là. Et en fait, tout le chemin de la rue de la Convention, il y a plusieurs fleuristes et à deux reprises, on a failli s'arrêter à un autre fleuriste pour s'arrêter finalement à celui qui était plus près de là où on habitait, le Monceau-Fleur. Et d'un coup, j'ai perdu connaissance et je me suis retrouvée au sol, les bras en croix. Et très, très rapidement, j'ai repris conscience et j'ai eu la vision de ma jambe séparée de mon corps. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on comprend que la vie ne sera plus jamais comme avant. J'ai été prise en charge à l'hôpital de Percy, l'hôpital militaire. J'ai subi 10 anesthésies générales, 10 ou 12, je ne sais plus, puisqu'au début, on m'a changé régulièrement de pansement. Comme c'était douloureux, il fallait faire ça à chaque fois qu'on m'endorme totalement. S'en est suivi beaucoup, beaucoup de douleurs, de moments de solitude. Au début, tous les jours, à l'heure où le soleil se couchait, c'était très compliqué. Je revivais à chaque fois l'accident. Donc, c'est vrai que je me souviens très bien du moment où je me suis réveillée au sol et où j'ai mis ma jambe. Ça, je pourrais jamais l'oublier, même si je fais X temps de thérapie. C'est des choses qu'on peut pas oublier parce que c'est le déclic. C'est là où, dans ma tête, je me suis dit, c'est fini, quoi. J'ai perdu ma jambe, c'est fini. Jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital, j'étais convaincue que c'était un attentat. C'est-à-dire que j'étais en train d'écrire un message assis sur mon scooter et que je me suis retrouvée d'un coup au sol avec ma jambe arrachée. Donc autant vous dire que j'étais persuadée qu'il y avait une bombe qui avait explosé et que là, en fait, j'étais en train de délirer, quoi. Sauf qu'on m'a annoncé à l'hôpital, après ma première opération qu'en fait, non, c'était un accident et que le conducteur était très âgé. Et c'est là où, justement, j'ai dit, mais c'est juste ça, mais mon Dieu, mais pourquoi moi? Et ça, ça a été le plus dur à accepter au début.
Pendant 3 mois, Pauline se familiarise avec l'hôpital et le fauteuil roulant qu'elle déteste. En janvier, elle obtient le droit de sortir la journée et va se réfugier le plus souvent possible chez sa mère avec sa compagne, jusqu'au 27 février.
Le jour où on marche, c'est pas un jour dont on se souvient normalement. Ben moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Cette sensation d'être à nouveau debout, de pouvoir serrer ma compagne dans les bras sans avoir mes béquilles, ça c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Puisque c'est le premier truc que j'ai fait, mais avant même de remarcher. Et c'était pas croyable. Après toutes les souffrances que j'avais endurées un mois auparavant, je savais même pas où j'allais être, si j'allais pouvoir remarcher, j'avais pas du tout... Voilà, c'est au jour le jour. Donc quand on est dans cet état, on peut pas imaginer que quelques mois plus tard, on va tenir debout sur une prothèse. Ouais, c'était un moment que j'oublierai jamais. J'avais juste envie, à un moment donné, de retourner dans la vie réelle et de commencer à reprendre une vie plus ou moins normale. J'ai pas pu le faire tout de suite puisque j'ai commencé la rééducation fin février, début mars. Mais je suis allée vite et je crois que j'ai été lâchée dans la nature fin mai. Auparavant, j'avais déjà recommencé à faire du sport. Je me souviens qu'après mes journées de rééducation à l'hôpital, où on nous réapprenait à marcher, on nous faisait faire des abdos. Je faisais des heures sup en fin de journée quand tous les kinés avaient fini leur journée et je faisais de la muscu parce que j'en pouvais plus de mon corps qui avait perdu 20 kilos de muscles. Et très rapidement aussi, quand je suis sortie de l'hôpital, je suis retournée à ma salle de crossfit puisque c'est un sport que je pratiquais avant, où je me suis obligée à porter des charges lourdes en équilibre pour essayer de retrouver de la mobilité. Très rapidement est arrivé ensuite les premières épreuves de la vie réelle, le retour au quotidien avec ma compagne qui m'a jamais lâchée et qui est devenue grossièrement mon assistante de vie, hein, puisque ça on n'y pense pas, mais dès que j'enlève ma prothèse le soir, je suis en fauteuil ou en béquille. En l'occurrence, quand je suis pas chez moi, je n'ai pas mon fauteuil roulant, donc je suis en béquille, donc je peux rien porter. Donc il faut toujours en permanence que quelqu'un soit à mes côtés. J'ai passé, on va dire, le plus dur, puisque l'été, c'est quand même une saison où on est en maillot de bain, il fait chaud, et donc j'ai dû affronter le regard des gens, subir la chaleur, parce qu'une prothèse, même si ça nous permet de marcher, on est compressé, c'est lourd, ça tient chaud, donc on transpire plus. J'ai découvert peu à peu des problèmes que j'aurais jamais dû connaître. Au fur et à mesure, j'ai pas eu le choix, à la fois j'ai découvert des problèmes pas forcément cool et qui surtout me ramenaient à chaque fois à la réalité que j'avais perdu ma jambe et que même si j'allais être appareillée, que je le suis très bien malgré tout, très bien pris en charge à ce niveau-là, ça remplacera jamais une jambe.
Pauline, qui exerçait un métier physique où on peut rester de longues heures debout, ne peut plus travailler.
J'étais assistante réalisatrice en télé. Je travaillais pour différentes émissions, notamment de divertissement. J'étais un peu la chef d'orchestre des tournages de ces émissions. Et ça me plaisait beaucoup. Ouais, c'était un métier qui me plaisait beaucoup. Et à côté de ça, j'étais professeure de tennis. Je donnais des cours de tennis à des enfants. Donc j'avais la double casquette sur ces deux métiers-là.
Après son accident, elle a donc dû repenser sa carrière professionnelle. 4 fois par semaine, Pauline se rend à Feucherolles, dans les Yvelines, au comité de tennis du département. Elle troque sa prothèse contre un fauteuil roulant et s'entraîne avec sa coach Aurélie.
Salut, ça va ?
Salut.
Très rapidement, j'ai participé à un événement sportif où ils proposaient des initiations, des découvertes à des sports pour les handicapés. Et on m'a convaincue de me mettre au tennis en fauteuil. Pour moi, c'était inenvisageable. Clairement, le fauteuil roulant, c'est pas du tout mon ami. Même à l'hôpital, déjà, je refusais de me mettre dedans et je préférais béquiller avec mon énorme pansement. Donc, j'ai été très réticente au début, sauf que voilà, on m'a convaincue qu'avec le niveau que j'avais, j'étais classée, etc. La concurrence qui était faible dans le domaine du tennis au niveau des femmes, j'avais toutes mes chances. Donc j'ai essayé, sans grande conviction, avec mes blocages psychologiques, et finalement j'ai fini par accepter de commencer un entraînement depuis septembre en tennis fauteuil. Avec le rêve effectivement de participer aux Jeux paralympiques en 2024 à Paris. Et c'est vrai que là, d'avoir ce projet-là, ça m'a aidé à tenir et à me lever le matin et à me mettre en forme au sport et à continuer à pas lâcher. Voilà. Mon procès n'a toujours pas eu lieu. J'ai été entendue par la juge d'instruction dans le cadre de l'affaire, mais voilà, elle n'a toujours pas clôturé l'affaire. Et après, avec les délais d'audience, on sait que ça va être encore très long. Donc dans le meilleur des cas, ça c'est mon estimation, je pense que mon procès n'aura pas lieu dans un an et demi ou deux. Encore faut-il que cet homme-là soit toujours en vie. S'il décède, vu son grand âge, il n'y aura plus de procès. Et ça, par exemple, c'est encore quelque chose auquel j'ai du mal à me préparer. Puisque je pense que même si c'est pas une solution thérapeutique, le procès, c'est une étape par laquelle j'aimerais bien passer, rien que pour que cet homme, il affronte mon regard et qu'il voit ce qu'il a fait, en fait. Heureusement, j'ai des passions, j'aime encore la vie. Après, il y a des choses qui m'handicapent au-delà de l'handicap que j'ai à la jambe. C'est la colère qui est toujours énormément là. Je suis pas apaisée et je pense que je le serai quand un projet de loi aura vu le jour, et non pas quand cet homme-là sera condamné, puisqu'il va avoir une peine symbolique, et voilà, ça va être anecdotique, la peine qu'il va avoir, et c'est pas ça qui va me soulager. C'est pour ça, encore une fois, que je mène le combat sur ce projet de loi. C'est la seule chose qui compte maintenant pour moi, et qu'encore une fois, on est que cet accident, il ait du sens, qu'il serve à quelque chose.
Pour que son accident serve, Pauline a rencontré Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à qui elle a soumis l'idée de mettre en place un contrôle d'aptitude à la conduite pour tous les automobilistes.
Dès l'obtention du permis, d'abord tous les 10 ans, puis ensuite à partir de 70 ans ou 80 ans, que ça soit tous les 5 ans, puis tous les 2 ans, on passe un test qui contrôlerait notre aptitude à la conduite. Il avait des problématiques que je pouvais entendre, à savoir que déjà les 80 km/h, ça avait été un tollé. Donc c'était compliqué de revenir à la charge auprès des Français sur la voiture. Mais il n'était pas con de travailler sur des idées de solutions pour faire en sorte que ce genre d'accident n'arrive plus. Sauf qu'il m'a fait comprendre, et je pouvais l'entendre, qu'il ne pouvait pas y aller tout seul, lui, en tant que ministre de l'Intérieur, que forcément c'était politique. Donc il fallait qu'une masse de personnalités politiques s'empare du sujet et soit d'accord avec ça. Donc je fais plusieurs interventions médiatiques qui, je pense, ont servi à ce que les gens comprennent le problème. Et l'opinion publique, contrairement à ce que le gouvernement pense, elle est prête, je pense, à accueillir une loi sur ce sujet. Seulement, il faut l'expliquer bien, il faut faire comprendre aux gens que c'est pour protéger les personnes, qu'on va tous être concernés. Je dis souvent que moi, je n'aimerais pas être à ma place, mais j'aimerais pas non plus être à la place du mec qui m'a fauché. Et personne ne veut l'être. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une loi. C'est pas uniquement pour éviter d'être victime, c'est pour éviter d'être coupable.
Aujourd'hui, Pauline veut aussi se reconstruire. Et c'est pour ça que le 17 novembre dernier, elle a décidé de participer à l'émission Danse avec les stars.
Bravo ma Pauline. Je sais tout ce que tu as traversé, te voir là, c'est magnifique, franchement. Bravo pour ton courage.
Danse avec les stars, c'est vrai que c'était une expérience incroyable. Ils m'ont contactée puisque le thème de leur prime, c'était d'intégrer des personnes anonymes qui avaient une histoire particulière. Moi, je regarde l'émission depuis toujours. C'est une émission de divertissement que j'adore, vraiment. Je trouve que c'est beau. J'ai jamais été une danseuse spécialement, à part danser comme ça hein, dans les soirées, etc. Mais en tout cas, j'ai toujours beaucoup aimé regarder cette émission. Pour être très honnête, je l'ai fait pour moi. À la base, c'était vraiment un défi personnel, sans savoir ce que ça allait pouvoir donner. Sur le plan physique, c'était quand même 4 heures de répétition par jour, sur une semaine. C'était intense, quoi. Donc, est-ce que mon corps, il allait tenir? Je ne savais pas. Donc, c'était vraiment l'inconnu. Une fois que ça a été fait, c'est vrai que c'était génial. Ça m'a soulagée quelque part, puisque la chorégraphie qu'a faite Fovoto, la danseuse professionnelle, c'était mon histoire, en fait. Et du coup, c'était vraiment comme un exutoire, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien de le faire bien entouré. C'était hyper rassurant de les avoir avec moi et de me prouver que c'était possible. Le double effet positif, ça a été les retours que j'en ai eus, puisque à travers les témoignages que j'ai eus, je me suis rendu compte que ça avait donné un peu d'espoir à certaines personnes.
L'année dernière, j'étais dans le public, par ici, sur un fauteuil roulant. Ça faisait 2 semaines que j'avais eu mon accident et là, aujourd'hui, je suis avec ces deux-là que j'aime d'amour déjà beaucoup à danser devant vous. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue depuis le début. à ceux qui sont occupés de moi, ma famille et Tiffen, que j'aime très fort et qui a été là aussi. Merci.
Il y a un an, jour pour jour, j'étais dans le public de Danse avec les Stars. C'était une des premières sorties que je faisais pour sortir un petit peu de l'univers de l'hôpital, etc. Et un an plus tard, je me suis retrouvée sur le parquet à danser, quoi. Donc c'est vrai que c'est fou et que c'est possible de le faire, hein. Mais j'en suis la preuve vivante.
Claudia, Pauline Desroulaides, elle est presque hyperactive aujourd'hui.
Oui, elle fait énormément de choses. Comme elle le dit, c'est un moyen pour elle de se dire que son accident n'a pas servi à rien. Donc elle a beaucoup de projets, elle veut continuer à avoir des projets. Et c'est vrai qu'elle se bat énormément. Et ça sera le cas probablement tant qu'elle sera en colère et peut-être même encore après.
Pauline Desroulaides se bat notamment pour que l'on contrôle l'aptitude à la conduite tout au long de la vie. On en est où ?
Comme elle nous le disait, elle a rencontré Christophe Castaner. Elle est maintenant en contact assez régulièrement avec Emmanuel Barbe, qui est le délégué interministériel à la sécurité routière. Il y a eu une première réunion, une autre est prévue très prochainement. Et donc, elle espère que tout ça va déboucher sur des mesures concrètes. Maintenant, elle a pris conscience que ça prenait du temps, que ça demandait de l'argent et que donc, c'était pas automatique. Mais elle croit vraiment que c'est une cause qui mérite tout ça et qu'elle pourra l'obtenir.
Elle veut disputer les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Ça semble réaliste ?
Oui, ça semble réaliste, d'autant que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont autour d'elle, et notamment son entraîneuse, pensent qu'elle a vraiment toutes ses chances. Elle était classée 2-6 au tennis avant son accident. Les classements au handisport ne fonctionnent pas de la même manière, donc on ne sait pas exactement où elle se situe. Mais je l'ai vue jouer, elle se débrouille effectivement très bien, surtout pour quelqu'un qui débute le tennis en fauteuil, parce qu'il y a toute une technique à apprendre pour se déplacer rapidement. Ce sont des fauteuils spéciaux. Donc voilà, pour quelqu'un qui découvre tout ça, elle se débrouille effectivement très bien. Et donc il y a beaucoup d'espoir sur le fait qu'elle soit prête en 2024.
Merci Claudia Prolongeau et merci à Nicolas Maviel pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amouroux et Stéphane Genest. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est à retrouver chaque soir de la semaine à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler autour de vous et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.